Naïveté peut vous mener à des dépenses inconsidérées. Gardez le sens de la mesure. Capricorne, l'ambiance du jour insuffle sa fantaisie, sa fougue et son indépendance. Prenez la vie de manière zen. Verseau, vous avez droit vous aussi à vos propres loisirs et vous vous accordez une soirée ciné. Une fin de semaine bien remplie. Poisson, le ciel vous encourage à inventer, créer et propose de nouvelles trouvailles. Laissez-vous guider par votre intuition.
Merci beaucoup Bénédicte.
Allez, bon réveil et bienvenue à vous sur Sud Radio, il est 7h.
Parlons vrai.
Et bonnes vacances pour ceux qui en profitent, il est l'heure de retrouver Léo Ardourel pour un premier journal. Bonjour à vous Léo.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. À la une ce matin, la flamme olympique a officiellement été remise aux organisateurs français. Elle doit embarquer aujourd'hui à bord du Bel Aime, direction Marseille pour une arrivée le 8 mai prochain. Hier, Gérald Darmanin est venu présenter le dispositif de sécurité qui sera déployé ce jour-là dans la cité phocéenne. L'actualité ce matin, c'est aussi la fin du blocage à Sciences Po. Un accord a été trouvé hier avec les étudiants pro-palestiniens qui occupaient un bâtiment depuis jeudi, un mouvement qui pourrait gagner d'autres universités françaises. L'Union étudiante va nous expliquer quelles sont les revendications. Et puis l'ONG Sea Shepherd veut créer un sanctuaire afin d'accueillir les orques de Marineland alors que leur détention en captivité deviendra interdite en 2026. Un moment très solennel hier, à moins de 3 mois des JO de Paris. La Grèce a remis officiellement la flamme olympique aux organisateurs français. Elle entame son parcours vers la France. Aujourd'hui, 11 jours de traversée de la Méditerranée à bord du Bel Aime pour une arrivée à Marseille le 8 mai. Une journée qui sera placée sous haute surveillance. 6000 policiers et gendarmes seront déployés, a annoncé hier Gérald Darmanin en déplacement dans la cité phocéenne pour préciser le dispositif de sécurité. Le ministre de l'Intérieur assure qu'il n'y a pas de risque terroriste caractérisé pour le moment, mais ses services se tiennent prêts à faire face à tout type de menaces.
Il y a 2 autres types de menaces. D'ultra-droite et d'ultra-gauche. Dans l'ultra-gauche, évidemment, ce qu'on pourrait qualifier de menace contestataire, qui ne s'en prendrait pas forcément aux personnes, mais qui voudrait s'en prendre au bien ou empêcher la flamme de faire son parcours. Et donc j'ai demandé au préfet de police d'abord de prévoir un lieu de manifestation pour ceux qui voudraient ce jour-là démontrer des contestations, quelles qu'elles soient. On barriera tous ceux qui voudraient accéder à la mer et qui auraient la mauvaise idée, par exemple, de se jeter à l'eau pour empêcher le bateau de rentrer. La mobilisation des policiers et des gendarmes sera absolument énorme. La moitié des unités de Force Mobile de France seront à Marseille pour pouvoir garantir que tout se passe bien.
Hier, on a appris que c'est Florent Manaudou qui sera le premier porteur de la flamme olympique en France. Rendez-vous donc le 8 mai à Marseille. Dans l'actualité, également, les agences de notation ne sanctionnent pas la France malgré la récente dégradation des finances publiques. Moody's et Fitch ont rendu leur verdict hier soir. Moody's a maintenu la note souveraine au niveau AA2 avec perspective stable. Même verdict pour Fitch qui avait déjà dégradé l'année dernière la note française au niveau AA- avec perspective stable. Un soulagement pour le gouvernement et notamment pour Bruno Le Maire. Cette décision doit nous inviter à redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques et tenir l'objectif d'être sous les 3% de déficit en 2027, a déclaré le ministre de l'Économie. Après les étudiants américains, la mobilisation en soutien à la Palestine prend de l'ampleur dans les facs françaises alors que plusieurs universités, notamment à New York, sont bloquées depuis plus d'une semaine. À Paris, c'est Sciences Po qui a connu une occupation ces derniers jours. Le comité Palestine Sciences Po demande la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po ainsi que la fin des partenariats avec Israël. Eleanor Schmidt est la porte-parole de l'Union étudiante, le syndicat étudiant qui soutient la mobilisation.
Pour nous, c'est important en tant qu'étudiants de pouvoir lever notre voix pour appeler au cessez-le-feu, pour appeler à la paix et aussi instaurer une sorte de rapport de force indirectement avec le gouvernement pour qu'il use de sa voix à l'international. Et c'est d'autant plus important quand on voit qu'aujourd'hui, les voix justement qui se mobilisent pour la paix, qui se mobilisent contre le génocide en cours, elles sont censurées, qu'on interdit des conférences, qu'on condamne par exemple des syndicalistes à des peines de prison comme ça a été vu dans le Nord. Voilà, aujourd'hui, on atteint un point de non-retour et donc c'est important également de se mobiliser pour nos libertés.
Le blocage de Sciences Po Paris a été levé hier soir suite à un accord entre les manifestants et la direction qui renonce notamment à des poursuites disciplinaires envers les étudiants mobilisés. La direction qui promet également d'organiser une réunion publique ouverte à toutes les communautés de Sciences Po d'ici jeudi prochain. Quel avenir pour les deux dernières orques du Marine et Landes d'Antibes? Les associations se mobilisent alors que la détention en captivité de cétacés deviendra interdite en France dès 2026. L'ONG Sea Shepherd annonce qu'elle travaille à la création d'un refuge français qui pourrait voir le jour au large de la Bretagne. Elle espère ainsi éviter la vente de Wiki et Keijo, un parc asiatique, une option inenvisageable pour Lamia Essemlali. Elle est la présidente de Sea Shepherd en France.
On fait voter une loi de protection et de bien-être animal. L'objectif, il a jamais été de se débarrasser du problème en envoyant les animaux qui sont actuellement captifs dans des pays où leurs conditions de vie seraient encore pires, en fait, hein, là, parce que moi, j'ai du mal à imaginer pire que le Japon. On est quand même dans les pays qui tuent le plus de cétacés au monde. On en est là. Donc, c'est complètement délirant d'envisager envoyer ces orques là-bas, justement pour dans le cadre d'une application de protection et de bien-être animal. Il y a un peu le côté surréaliste de la situation quand même.
Des propos recueillis par Melvin Gardet. Puis un mot de foot, match nul un partout. Hier soir entre Montpellier et Nantes en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Un seul match à suivre aujourd'hui, le PSG qui accueille Le Havre à 21h au Parc des Princes et qui pourrait être sacré champion en cas de victoire. Voilà pour ce point sur l'info. Très bonne journée avec Sud Radio.
Mais très bonne journée à vous aussi Léo Ardourel et puis à tout à l'heure.
La météo Sud Radio.
Alors bonne journée, ça dépend, hein. Il y a qu'une seule personne pour nous le dire, c'est Yaya André. Bonjour Yaya.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
Ou mauvaise journée du coup?
Eh bien voilà, aujourd'hui l'instabilité s'installe et durablement. Elle touche ce matin la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Champagne. Le ciel y est changeant, ponctué de quelques averses, possiblement déjà orageuses, mais rien de comparable à ce qui suit en seconde partie de journée. En effet, la vigilance orange orage est mise en place à partir de midi pour la Gironde, les Landes, la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot. Faites très attention sur ces départements où des orages plus ou moins violents arrivent dans l'après-midi. L'instabilité s'accentue donc cet après-midi, notamment sur le quart sud-ouest. La nouvelle perturbation orageuse remonte ensuite depuis la Nouvelle-Aquitaine et se dirige au fil des heures vers l'Île-de-France et le Massif central, tout en s'atténuant. Le vent de sud-est, lui, se renforce au cours de journée également. Il atteint 80 à 100 km/h dans le domaine de l'OTAN, sur les crêtes des Pyrénées et les hauteurs du Massif central. Enfin, côté température, au lever du jour, le thermomètre affiche entre 6 et 8 degrés dans l'intérieur du pays, entre 8 et 12 degrés en bord de mer. Les maximales sont de l'ordre de 12 à 14 degrés en Bretagne et Normandie, de 15 à 18 sur la moitié nord du pays et de 18 à 20 degrés plus au sud.
Merci beaucoup Yaya André. Les pronostics hippiques de Sud Radio ont filé à Auteuil ce matin. C'est la troisième épreuve, départ à 15h15. Jean-Paul Delperrier nous conseille de jouer le 4, le 10, le 16, le 2, le 5, l'As, le 2 et le 6. Je répète, 4, 10, 16, 2, 5, As, 2 et 6. Des pronostics hippiques à retrouver comme tous les jours sur sudradio.fr.
Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Allez, bienvenue à vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h, on est ravis de vous accompagner. Bonne fête aux Zita qui nous écoutent et puis bonne fin de vacances à ceux qui rentrent ce week-end. C'est la fin des vacances pour la zone A, les vacances de Pâques bien sûr. Ça concerne les Bordelais, les Clermontois, les Lyonnais, faites attention sur la route. Bonnes vacances aussi aux Corses qui partent en vacances aujourd'hui, tiens, notamment ceux qui écoutent Sud Radio du côté de Corté sur le 99.6 FM, pardonnez-moi. On est ensemble jusqu'à 10h, je le disais, avec beaucoup de questions à vous poser. On va parler de la dette française. Finalement, la note de la dette française n'a pas été dégradée. C'est presque une surprise par les agences de notation Fitch et Moody's cette nuit. Question qu'on vous pose ce matin, est-ce que le gouvernement peut encore éviter une cure d'austérité? Eh bien, vous votez sur Twitter et sur YouTube. On parle aussi de la mobilisation en faveur de Gaza des étudiants de Sciences Po. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce blocage de la plus célèbre école de France hier en plein cœur de Paris, l'école du Pouvoir? Est-ce que cette mobilisation pour vous est courageuse ou au contraire ridicule? Pareil, vous votez, quelle que soit votre opinion, venez la partager sur Sud Radio au 0826 300 300. On parlait du mauvais temps, on fera un bilan, tiens, des vacances de Pâques et notamment de la saison de ski dans quelques minutes avec les professionnels du secteur. Mais tout de suite, on salue la France qui se lève tôt. Et la France qui se lève tôt, notamment, ce sont les producteurs de lait, les éleveurs en général et en particulier les producteurs de fromage qui célèbrent un événement important ce week-end à Paris. Ça se passe en ce moment, c'est le festival des AOP. On en parle avec notre invité Hubert Dubien. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue. sur Sud Radio. Merci. Producteur de lait pour produire de la fourme de Montbrison, c'est dans la Loire. Vous êtes aussi président du Conseil national des appellations d'origine laitière. Tiens d'abord, petite définition, c'est quoi une AOP? Ça veut dire quoi? On a tous vu ce sigle, mais on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière.
Alors l'appellation d'origine protégée, déjà, vous allez le reconnaître facilement avec ce logo rond, jaune et rouge, pardon, qui est notre ADN quelque part. Qu'est-ce qui s'y cache derrière? Ce sont des engagements qui sont pris, qui sont contrôlés via des cahiers des charges. On va y retrouver la méthode de production du lait, on va y retrouver la zone géographique sur laquelle on va produire ce lait, on va y retrouver la méthode de transformation du lait et d'affinage du produit derrière. Voilà. Alors c'est des choses qui sont en train de changer parce qu'on cherche aussi à introduire dans nos cahiers des charges de nouveaux éléments autour de la durabilité, parce que c'est des questions que la société nous pose et à laquelle on est en capacité de répondre autour de l'économie, du social et de l'environnement aussi, bien sûr.
Alors, appellation d'origine protégée, tiens, parlons de votre fromage à vous, la fourme de Montbrison. Ça veut dire qu'en gros, techniquement, on pourrait très bien faire de la fourme n'importe où sur la planète si on a le lait, mais concrètement, on peut pas le faire au-delà d'une certaine distance qui partirait de la ville de Montbrison dans la Loire.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on attribue une méthode de fabrication, un produit spécifique à un territoire, c'est aussi parce que c'est sur ce territoire qu'historiquement on trouvait la première matière fourrage spécifique pour nourrir des animaux et qui finalement permet d'obtenir un lait avec une flore spécifique, avec un parfum, un goût, et qui permet finalement l'obtention du produit. Quand on parle dans nos cahiers des charges justement du fourrage, et comment on obtient ce fourrage, c'est justement pour préserver ses savoir-faire. Je dis toujours, moi, je dis très régulièrement que finalement, on n'est que de passage sur ces territoires, on nous a transmis un savoir-faire, à nous aussi de le conserver et de le transmettre pour demain, parce que ça fait vraiment partie du patrimoine français, quoi.
Alors, il existe en tout 51 appellations d'origine protégée, juste pour le lait, hein, les AOP laitières. 46 fromages, 3 beurres, 2 crèmes aussi, faut pas oublier 2 crèmes. J'imagine que c'est la crème d'Isigny en Normandie et la crème de Bresse, non? Ça doit être ça?
C'est exactement ça.
Et vous avez un festival en ce moment, du coup, dans la capitale. Tiens, on reçoit un message de notre auditrice Véronique, qu'on embrasse, qui nous envoie une photo de tous les fromages qu'elle a achetés. Alors, elle n'a pas lésiné, elle a pris de l'abondance aussi, par exemple. Quoi qu'il en soit, beaucoup de fromages. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce festival des AOP? Vous avez notamment des shows culinaires avec des grands chefs, des chefs de top chefs.
Oui, c'est ça. Déjà hier soir, on avait Nina Métayer qui est notre meilleure pâtissière mondiale 2023 quand même, qui est venue nous faire l'honneur de sa présence et nous faire des petites présentations. Elle a fait des petits canapés avec une espèce de chantilly. Là, hein. Elle nous a fait une, j'adore la chantilly, une crème chantilly là, mais absolument merveilleuse. On s'est régalé, associé avec des fromages. Effectivement, on a des candidats top chef là, qui vont se succéder samedi et dimanche pour nous faire des shows culinaires. On va avoir aussi des associations. On fait vraiment de l'organoleptie là. Mmh. On est vraiment dans le goûter, venez voir, venez déguster. Et puis après, effectivement, vous aurez la possibilité d'acheter si vous le souhaitez. Mais ce qu'on souhaite surtout déjà, nous, c'est parler de ces appellations, parce que voilà, c'est l'art culinaire à la française, et on y tient beaucoup, on en est très fiers, et voilà, on veut informer le consommateur sur ce qu'on fait, on veut informer le consommateur sur ce qu'on est capable de faire comme démonstration. On est très fiers de cet événement. C'est 95 producteurs qui vont se relayer pendant tout le week-end pour venir discuter avec vous, pour venir discuter avec les consommateurs, échanger, répondre à leurs questions, ils en ont plein, et en plus c'est passionnant pour nous, et c'est un superbe exercice pour nous aussi. Et
même j'imagine que des fromagers, en tout cas des producteurs de fromage des quatre coins du pays qui se rencontrent, justement ça permet d'échanger un petit peu d'expérience justement, et c'est pour ça que c'est utile. Alors ces rendez-vous au 104 à Paris, c'est où?
Alors c'est au nord de Paris. Déjà de toute façon, si on tape 104, on y arrive tout de suite, on le retrouve très rapidement, le site. C'est un site absolument magnifique sur lequel on a été très très bien accueillis et qui est très spacieux, très lumineux. Et là justement, on est en capacité d'exprimer au travers de démonstrations de fabrication aussi qui vont avoir lieu. Mmh. On a commencé hier par exemple, Fond d'Anvers a fait une démonstration de fabrication, voilà. auprès d'un public hyper intéressé, mais c'était passionnant, hyper intéressé, et voilà, ils sont même allés jusqu'à faire la comparaison, Fourme de Montbrison, Fourme d'Anvers, finalement, ben oui, c'est deux produits complètement différents, de par la manière de fabriquer, et puis aussi on n'est pas sur le même versant de ce massif du forêt, ouais. Et finalement, ben, on ne trouve pas les mêmes herbages et à la fin, on n'a pas le même produit.
Effectivement. Voilà,
c'est
ce qu'il fallait dire.
C'est jusque là qu'on veut aller.
Exactement. Ben, c'est là qu'on peut aller aussi au 104 à Paris ce week-end. Dans le nord de la capitale, facile à trouver justement le festival des appellations d'origine. Protégez-vous qui aimez le fromage, le lait ou alors la crème, le beurre, n'importe quoi. Allez-y, allez voir ce qu'ils produisent justement, ce qui font vivre ce terroir, tous ces terroirs. Merci à vous, Hubert Dubien, producteur de lait pour la Fourme de Montbrison dans la Loire, président du Conseil national des appellations d'origine laitière. À suivre sur Sud Radio dans quelques minutes, on va vous emmener en Ardèche, c'est magnifique. Juste avant, on va faire un point sur le bilan de la saison de ski pour les sports d'hiver qui touchent à leur fin lors des vacances de Pâques. Mais dans un instant, la revue de presse avec Morgane Thomas, à tout de suite.
Ça s'est passé sur Sud Radio.
Est-ce qu'on marche sur la tête dans la préparation des JO de Paris? La répétition de la cérémonie d'ouverture est reportée à cause de la crue de la Seine, parce que le niveau du fleuve est trop haut pour assurer normalement le passage des ponts. Après la baisse de moitié de la jauge des spectateurs et beaucoup de remises en cause, on ne peut pas dire qu'on marche sur l'eau pour la préparation de ces JO de Paris.
Sud Radio, parlons vrai.
C'est si bon.
Rouge des prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faux filet.
En anglais.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelée.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snaqué.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Il y en a pour toutes les bouches.
Et oui!
Dis donc, cher voisin, on s'est offert une pergola.
Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même.
Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille?
Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures.
Des fenêtres et volets aussi?
Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte.
Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie!
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Et bienvenue à vous dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 7h16, presque 7h17, même tout pile maintenant. Dans un instant, les sports d'hiver, mais avant ça, la revue de presse avec Morgane Thomas qui nous emmène à Marseille. Bonjour à vous, Morgane.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Oui, je vous emmène à Marseille ce matin pour deux raisons. D'abord, festive, puisque la flamme olympique, vous l'avez entendu, a embarqué sur le Bellem. Elle est partie de Grèce hier pour rejoindre la cité phocéenne, arrivée sur le Vieux-Port prévu le 8 mai prochain. Tout est prêt, assure ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Près de 6000 policiers et gendarmes, des tireurs d'élite sur les toits, des moyens sous-marins et nautiques. Bref, je cite, le vieux port sera étanche.
Il y a des tensions terroristes, des tensions géopolitiques, la guerre en Ukraine. Il est normal que les policiers et les gendarmes sécurisent les Jeux Olympiques, les équipes, les supporters, les communes qui vont accueillir la flamme. Et bien sûr, ils vont sécuriser l'intégralité de notre territoire, y compris les villes touristiques.
Le dossier sécurité à Marseille ne se résume pas à la flamme olympique.
Ouais, c'est d'ailleurs la une de la Provence ce matin dans vos kiosques. Le ministre de l'Intérieur défend son bilan et sa méthode.
On rendra la Castellane à ses habitants, promet Gérald Darmanin. Il est là pour convaincre. Oui, c'est la mort annoncée du trafic de drogue dans la cité emblématique des quartiers nord de Marseille, la Castellane. 400 policiers et gendarmes supplémentaires, 100 de plus l'année prochaine, annonce-t-il. Il y a 4 ans, il y avait plus de 230 points de deal dans les Bouches-du-Rhône. On a divisé ce nombre par deux. On casse maintenant un modèle économique. Il faut savoir que c'est 30 000 à 40 000 euros par jour par point de deal à Marseille.
Effectivement, mais l'opération PlaceNet XXL fait face à un enjeu de taille, le deal numérique.
Et d'ailleurs, désormais, les policiers ont le droit d'aller sur Internet en se faisant passer pour un consommateur qui commande une livraison de Uber Sheet et interpeller donc les personnes. C'est ce que assure Gérald Darmanin. Je le cite, la drogue, c'est une tuerie tumeurs cancéreuses. Et ce que nous faisons, c'est de la chimiothérapie. Parfois, il faut y revenir.
Et bien justement, en parlant malheureusement de tumeurs, alors parfois bénignes, mais quand même, c'est la une de la Dépêche du Midi avec un scandale sanitaire possible qui est en tout cas annoncé sur le médicament Androcur.
C'est un traitement contre l'acné, la chute de cheveux, les règles irrégulières, bref, les désordres hormonaux. Il existe depuis 1980 sur le marché français et il serait à l'origine de méningiomes, de tumeurs bénignes des méninges.
Et parfois bénignes
dans 90% des cas en tout cas. On apprend qu'une association a saisi le ministère de la Santé. Plus de 450 dossiers sont en cours d'instruction. C'est à lire à la une de la Dépêche ce matin.
Le risque d'avoir un méningiome serait multiplié par 20 pour celles qui prendraient ce médicament pendant plus de 5 ans. C'est quand même terrifiant. Merci beaucoup Morgane Thomas pour cette revue de presse. Tiens, tout de suite c'est pour vous. On parle sport d'hiver sur Sud Radio. Et on en parle avec plaisir avec notre invité Patrick Provost. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'Observatoire national des stations de montagne. Un premier bilan de la saison de sport d'hiver, puisque les vacances de Pâques sont pas tout à fait terminées. Malgré tout, une bonne partie des stations de ski ont commencé à fermer leurs portes. D'abord, il en reste beaucoup d'ouvertes ou pas ?
Quelques-unes. Hein. Là, on arrive, disons pratiquement la semaine prochaine au mois de mai. C'est quelques-unes, surtout les stations les plus hautes en altitude, bien sûr, qui fonctionnent très bien. Là, avec les dernières chutes de neige qu'on a eues, effectivement, les conditions sont excellentes. Et ce qui est dommage, c'est que effectivement, il y ait peu de monde dans les stations sur cette dernière semaine.
Alors, comment ça s'explique justement ? C'est qu'à Pâques, on ne s'attend plus à avoir de la neige parce qu'on sait que l'enneigement se réduit année après année ?
Je crois que bon, il y a une évolution un petit peu du comportement de la clientèle, et puis aussi il faut savoir que on a eu des températures très hautes, très printanières sur deux week-ends au mois d'avril. Et quand on arrive au mois d'avril, on sait que les conditions sont différentes, même si elles sont différentes de l'hiver, mais elles sont très agréables quand effectivement il y a la neige. Et je pense que la clientèle, bon bah, avec la chaleur ou les températures très douces qu'on a eues les derniers week-ends, on pensait peut-être à autre chose que d'aller en montagne à la neige. Et puis les chutes de neige ont eu lieu cette semaine. Il y a eu un refroidissement qui a amené des conditions quasiment hivernales et effectivement très exceptionnelles. Et on change pas de projet de vacances au dernier moment.
Non, c'est vrai que c'est compliqué, effectivement. Maintenant, un premier bilan, je le disais, fréquentation des stations de ski en légère hausse.
Oui, on est en légère hausse, effectivement. Alors ça, c'est un résultat extrêmement positif, parce que déjà, l'hiver de l'année dernière a été bon. Hein. Mm-hmm. Ceci dit, quand on analyse un petit peu par massif et par secteur, il y a du très très bon, voire excellent. Et puis, il y a effectivement des massifs qui ont souffert cet hiver par le manque de neige, et surtout l'alternance d'une manière régulière à basse ou à moyenne altitude de chute de neige, pluie, chute de neige, pluie, et effectivement qui a pesé sur toute la première partie de la saison sur certains massifs.
Alors c'est les Alpes du Nord apparemment qui s'en sortent le mieux, c'est-à-dire aussi là où on a les stations les plus hautes, je crois.
Oui, mais moi je dirais c'est toutes les Alpes, je dis bien toutes les Alpes, Alpes du Nord et du Sud, s'en sont très bien sorties cet hiver. Hein. Les Pyrénées ont eu quelques difficultés à démarrer dans la saison, mais se sont bien rattrapées en février et finalement sont très légèrement négatifs. Et je crois que les Pyrénéens sont quand même satisfaits de leur saison. Par contre, effectivement, sur les autres massifs, que ça soit Massif Central, Vosges. 50%, et surtout Vosges et puis Jura, ça a été beaucoup plus difficile, effectivement.
Et ce qui nous amène à cette dernière question, justement, notamment pour les stations de basse altitude dans le Massif Central ou dans les Vosges, est-ce qu'il va falloir renoncer tôt ou tard au ski ?
Écoutez, moi, je pense que une mauvaise saison, une année sans neige, je veux dire, c'est toujours arrivé, alors effectivement, il ne faut pas que ça se reproduise tous les ans. Il faut reconnaître que de toute façon, à basse altitude, les difficultés de pratiquer le ski sera beaucoup plus difficile ou d'une manière non régulière, si on peut dire. Mais il faut pas aller trop vite non plus sur nombre de massifs, et puis y compris sur les massifs dont on a cité, ils sont quand même équipés. Et puis les domaines skiables font un travail remarquable pour maintenir la neige. Mais toutes les stations, de toute façon, je dis bien toutes, réfléchissent et travaillent effectivement pour s'adapter par rapport à ce changement, à ce dérèglement climatique. Je crois que tout le monde est au travail. Moi, j'étais au ski débrief à Val d'Isère donc il y a deux jours, et je peux vous dire, vu les conférences à laquelle j'assistais, tout le monde travaille en montagne,
y compris à la diversification pour sortir du tout ski, y compris dans les hautes stations comme Val d'Isère dans le nord des Alpes qui sont très hautes. Effectivement. Bon. On sera amené à en reparler avec vous, en tout cas, Patrick Provost. Merci beaucoup pour cet éclairage. Bonne fin de saison. Vous allez retourner au ski ou pas dans les dernières heures?
Ah bah j'irai peut-être faire un tour ce week-end, parce
vous
que là il fait le ciel est grand bleu.
Vous êtes où?
Je suis en Maurienne actuellement.
Mais
donc
écoutez,
il y a encore en Haute Maurienne, effectivement il y a encore beaucoup de neige, puisqu'il y a eu un retour d'est dernièrement et la neige est excellente.
Mais écoutez, profitez-en, écoutez un petit peu de puff, comme on dit, ça fait du bien. Président de l'Observatoire national des stations de montagne, merci à vous Patrick Provost d'être intervenu sur Sud Radio, et bonne fin de vacances de Pâques, et en tout cas bonne fin de saison de ski. Il est 7h24 sur Sud Radio. Tout de suite, on voyage, mais pas forcément pour skier.
Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Jean-Marie.
Directeur éditorial des guides Le Petit Futé. Aujourd'hui, c'est magnifique, direction l'Ardèche.
Oui, nous partons sur l'Ardèche. Mais l'Ardèche, d'ailleurs, porte le nom de la rivière qui le traverse, qui modèle complètement son paysage. Alors, il y a bien sûr les fameuses gorges. C'est le fief du canoë-kayak en France. Mais c'est aussi un beau territoire pour faire de la randonnée. Il y a plein de sentiers. Ils sont nombreux. Ils traversent aussi bien des villages que des espaces naturels préservés. Je pense notamment au très beau bois le bois de Paillolive.
Oui, c'est magnifique aussi. Alors aujourd'hui, on découvre l'Ardèche d'une autre façon, l'Ardèche souterraine.
Voilà, une ambiance un tout petit peu différente, puis quand il fera chaud, ça fera du bien. Donc on est les grottes, tout simplement, je pense, à l'incontournable grotte Chauvet, qui remonte à l'ère paléolithique. Alors c'est la grotte ornée la plus ancienne du monde. Alors on peut pas visiter l'original, pour des raisons de préservation, bien sûr. Donc on visite la grotte Chauvet 2, que l'on visite sur les hauteurs de la ville de Vallon-Pont-d'Arc.
Alors, la réplique est vraiment identique ou pas?
Oui, alors c'est la même technique. Ce sont ceux qui ont fait Lascaux qui ont fait Chauvet également. C'est strictement la même. Donc, il y a une reproduction qui est faite. Puis ensuite, les couleurs et les motifs des peintures rupestres ont été reproduits à la main avec les mêmes pigments de charbon, de bois que nos ancêtres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une mise en avant par des effets spéciaux, visuels, olfactif. Donc on va pouvoir se balader comme ça dans les ossements d'animaux, les stalactites. Il y a même une petite odeur de calcaire mouillé.
Évidemment. Parce que
la température, l'humidité ont été reproduits. C'est assez bluffant. Alors une bonne visite pour compléter, c'est la galerie de l'Aurignacien. Et là, on va découvrir le quotidien, l'environnement de nos ancêtres qui étaient là, qui vivaient dans la caverne.
Formidable. Alors on continue nos pérégrinations souterraines à Lavin-d'Orniac.
Alors là, on est dans le sud de l'Ardèche. Bon, alors c'est la grotte, bien sûr, qu'on visitait, mais aussi c'est un musée qui est classé grand site de France. Toujours un très bon label en ce qui concerne la préservation des sites. Donc, Lavin-d'Orniac est vraiment incroyable. C'est né de l'érosion de l'eau dans le massif du bois de Ronze. Alors, ça se différencie un peu des autres grottes parce que l'ouverture n'est pas horizontale, mais l'ouverture est verticale. Donc, elle date de 1935. Et bon, 4 années plus tard, on pouvait la visiter, admirer ses stalactites. On est quand même à 30 mètres de hauteur. La stalagmite la plus haute, c'est la pomme de pin. Elle, c'est 11 mètres. Donc, autant vous dire qu'on se sent vraiment tout petit à côté. Et pendant la visite, on se rend vraiment compte du travail assez incroyable de l'eau qui façonne la roche, qui crée de véritables sculptures de couleurs pourpre, blanche, ocre. C'est assez beau. Et puis, en marge de la grotte, il y a aussi une autre visite à faire. Là, il y a la cité de la préhistoire. Là, c'est plutôt sur l'organisation des sociétés préhistoriques. Donc, c'est du paléolithique moyen au premier âge de faire. Alors c'est un musée interactif, il y a plein de bornes multimédia, une véritable immersion. Il y a aussi l'été des ateliers qui sont organisés, allumer un feu, tailler un silex. Bon, ça c'est plutôt sympa en famille.
Oui, on sent en tout cas que vous avez aimé. Pour finir, on va terminer par un mot sur les grottes de Soyons.
Soyons, c'est un village vraiment très charmant, c'est aussi un haut lieu de la préhistoire dans la région. Alors ces grottes préhistoriques de Soyons, on va y accéder par un sentier botanique, et il y a deux grottes creusées dans le calcaire argileux, la grotte de Néron, le le trou du renard. Alors on a aussi des stalagmites, des stalactites à plus en finir. Le musée archéologique aussi mérite une visite. C'est les traces d'occupation humaine du paléolithique aussi, du néolithique. Mais ça revient plus loin, ça va jusqu'à la période gallo-romaine. On y a des outils des hommes de Néandertal ou de Cro-Magnon. Il y a un squelette partiel de mammouth qui est exposé. Donc c'est plutôt sympa. Donc l'Ardèche, ça peut être aussi, c'est pas que sur Terre, c'est aussi sous Terre. C'est vraiment très très sympa.
Eh bien c'est noté. En tout cas, merci beaucoup Stéphane. On part où demain avec le petit futé?
Nous partons en Croatie dans un site absolument incroyable.
Ah, c'est magnifique, ça c'est vrai, vous avez raison. À suivre sur Sud Radio, un site un tout petit peu plus différent, mais qui était presque touristique hier parce qu'il s'est passé des choses. On part à Paris, rue Saint-Guillaume, du côté de l'école de Sciences Po, qui a été bloquée hier par certains de ses étudiants qui se mobilisent en faveur de Gaza. On va en parler avec un enseignant de Sciences Po. Qu'est-ce qu'il a pensé de cette mobilisation? Ce sera juste après les informations.
Ça s'est passé sur Sud Radio.
Quand un gamin casse une voiture et que une demi-heure après, les policiers sont obligés de les laisser ressortir parce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, soi-disant, forcément, le surlendemain, ils les retrouvent dans la rue pour recommencer la même opération. Plus on laisse faire et plus on s'autorise des choses. Si on commence à autoriser les enfants à laisser leurs papiers par terre, le lendemain, on va les autoriser à cracher sur leurs voisins et le surlendemain, à leur mettre une baffe et le sur-surlendemain, à prendre une barre de fer pour leur taper sur la figure.
Sud Radio, parlons vrai.
Garaison, imaginez un cadre accueillant et unique dédié à l'apprentissage et à la transmission. Un lieu où écoliers, collégiens et lycéens grandissent et étudient dans le meilleur des environnements. Bienvenue à Notre-Dame de Garaison, l'institut qui fait le lien entre tradition et futur. Ici, la vie en communauté rime avec exigence et valeur. Info sur garaison.com. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Chez Autosécurité, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Autosécurité fait son grand jeu des As de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur autosécurité.com. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Allez, bon réveil, bonnes vacances à ceux qui en profitent et bienvenue sur Sud Radio, il est 7h30. Sud
Radio. Parlons. Ouais.
Avant de repartir à Sciences Po Paris, les informations. Baptiste Berthelin, bonjour.
Bonjour à tous. Cette décision doit nous inviter à redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques. Réaction du ministre de l'économie Bruno Le Maire alors que les agences Fitch et Moody's ont maintenu la note de la France en AA- et AA2. Fitch considère tout de même que le gouvernement est sur une ligne de crête pour réduire son déficit public en raison d'une situation politique intérieure délicate. L'exécutif qui maintient son objectif de réduction du déficit public à 3% pour 2027. Cet impressionnant accident dans le Nord, 23 personnes ont été blessées hier après-midi dans une collision entre deux bus et un poids lourd sur l'A216 à hauteur de Calais. Deux personnes ont été plus grièvement touchées. Les deux bus transportaient des collégiens et lycéens en voyage scolaire. Le premier venait d'Allemagne, le second de la France. Au total, 141 personnes ont été impliquées. La tension retombe un peu à Sciences Po Paris. La direction a annoncé hier dans la soirée un accord avec les manifestants pro-palestiniens qui bloquaient le site. Un débat avec toutes les communautés de Sciences Po est prévu dans les prochains jours. L'école a aussi décidé de suspendre les sanctions disciplinaires engagées contre les étudiants qui ont manifesté. Une nouvelle convention citoyenne avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est le souhait du président de la République. Le sujet sera connu d'ici la fin de l'année. La première qui a déjà eu lieu concernait le climat et la deuxième, la fin de vie. Le chef de l'État qui a d'ailleurs échangé hier avec les membres de cette dernière convention près d'un an après la remise du rapport. Et puis sa sœur avait été la première française à la porter en Grèce. Le nageur Florent Manaudou sera le premier porteur de la flamme olympique en France le 8 mai prochain à Marseille. Annoncé hier de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris 2024 depuis Athènes. La flamme qui va partir de la Grèce aujourd'hui à bord du Bélème pour une longue traversée de la Méditerranée. Voilà pour l'actualité. Très belle journée à tous.
Et très belle journée à vous aussi Baptiste Berthelin. Merci beaucoup.
La météo Sud Radio.
Enfin, très belle journée peut-être, mais avec un temps de chien, y a rien, André.
Et oui, l'instabilité en effet s'installe, et ce, pour les jours à venir. Elle va toucher ce matin la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Champagne. Le ciel y est changeant, ponctué de quelques averses possiblement déjà orageuses, mais rien de comparable à ce qui suit en seconde partie de journée. En effet, la vigilance orange orage est mis en place à partir de midi pour la Gironde, les Landes, la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot. Faites très attention sur ces départements où des orages plus ou moins violents arrivent dans l'après-midi. L'instabilité s'accentue donc dès midi, notamment sur le quart sud-ouest. La perturbation orageuse remonte ensuite depuis la Nouvelle-Aquitaine et se dirige au fil des heures vers l'Île-de-France et le Massif central, tout en s'atténuant. Le vent, lui, de sud-est, se renforce en cours de journée. Il atteint 80 à 100 km/h dans le domaine de l'OTAN, sur les crêtes des Pyrénées et les hauteurs du Massif central. Enfin, au lever du jour, le thermomètre affiche entre 6 et 8 degrés dans l'intérieur du pays, entre 8 et 12 degrés en bord de mer. Les maximales cet après-midi sont de l'ordre de 12 à 14 degrés en Bretagne et Normandie, de 15 à 18 sur la moitié nord du pays et de 18 à 20 degrés plus au sud.
Merci beaucoup, Yaya André.
Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Allez, bienvenue à vous dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h et on est ravis de vous accompagner. On vous pose cette question ce matin. Qu'est-ce que vous avez pensé de la mobilisation des étudiants de Sciences Po en faveur de Gaza, ce blocage auquel on a assisté hier en plein Paris? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est courageux ou au contraire ridicule? Pour l'instant, vous dites que c'est courageux à 32% d'entre vous et ridicule à 68% d'entre vous. Ça, c'est sur Twitter. Continuez à voter et appelez nous, tiens, 0826-300-300, étudiants de Sciences Po par exemple, vous êtes tous les bienvenus sur Sud Radio. Dans un instant, dans quelques instants plutôt, on va parler de votre santé, la vaccination bientôt obligatoire contre la méningite pour les bébés, on en parlera avec le docteur Roger Rua, mais avant ça, tout de suite, direction la rue Saint-Guillaume à Paris. Avec notre invité, professeur de communication politique à Sciences Po Paris, Philippe Moreau-Chevrolet, bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que vous avez participé au blocage hier ?
Non, j'ai pas participé au blocage qui était principalement fait par des étudiants. Et par ailleurs, on peut penser qu'il y a une dimension politique dans le cadre des élections européennes et que probablement LFI, qui d'ailleurs était présent, était dans les négociations, a utilisé un petit peu ce mouvement ou cette manifestation pour la campagne, justement.
Alors ça, c'est vrai que les députés de la France Insoumise, un certain nombre d'entre eux, se sont pressés, y compris des candidats sur la liste aux européennes, se sont pressés rue Saint-Guillaume pour soutenir les étudiants et parfois même s'interposer entre les forces de l'ordre et les étudiants. Revenons sur ce qui s'est passé. Les étudiants avaient un certain nombre de revendications, dont, je cite, la tenue, je cite encore, d'un town hall avec la direction de l'école. C'est quoi un town hall, Philippe Moreau-Chevrolet?
Pour simplifier, c'est un grand débat. C'est-à-dire que la direction accepte de débattre avec l'ensemble des étudiants de Sciences Po et de répondre aux questions du public, enfin des étudiants. Mmh. Mais ça va être un débat à ciel ouvert. Donc l'idée, je pense, du côté de Sciences Po, c'est d'arrêter d'avoir un dialogue avec une frange de manifestants qui est extrêmement radicalisée, très dure, et avec qui le dialogue est quasiment impossible, et de prendre une communauté plus large, donc d'avoir plus de gens qui participent pour essayer de calmer le jeu et puis surtout d'avoir un vrai dialogue, pas juste un affrontement.
Alors c'est la technique du grand débat qui avait été lancée par Emmanuel Macron au sortir des gilets jaunes. D'ailleurs, ça doit parler aux preuves de communication politique que vous êtes. Autre revendication, mais qui celle-ci n'a pas été à ce stade satisfaite par l'école, la revendication des étudiants grévistes, c'était notamment, je cite, investiguer les partenariats de l'école avec les universités et organisations qui soutiennent l'État d'Israël. Manifestement, c'était pas une bonne chose pour ces étudiants-là. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors, c'est très dangereux parce que là, pour le coup, on entre dans une espèce de chasse aux sorcières. Donc, on va essayer de rentrer, de qualifier, en fait, des partenaires de Sciences Po. Et il y en a de toute nature dans tous les pays, de tous les régimes politiques. Et on va commencer à établir une hiérarchie entre eux en chassant tous ceux qui pourraient avoir des liens avec Israël. C'est évidemment très, très dangereux comme logique, très délétère. Le problème, c'est qu'en fait, Sciences Po est en train de calquer un peu sa logique de fonctionnement sur celle des grandes universités américaines qui en ce moment sont traversées par des mouvements du même type, alors beaucoup plus violents parce que sur certains campus américains, il y a eu des menaces, des agressions physiques contre les étudiants juifs. Là, on n'en est pas là. Mais
alors ça, c'est important de le préciser. Vous confirmez, vous qui êtes prof à Sciences Po, que ce genre d'acte ou de menace ou d'intimidation physique, d'agression, ça n'a pas eu lieu à Sciences Po?
Mais il y a un cas où on a un doute, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on n'est pas au niveau de violence qu'on peut connaître à l'étranger. Non, on n'y est pas, heureusement. Et il y a quand même une, voilà, il y a quand même un cadre qui est extrêmement fort, qui est posé. Ouais. Après, il y a un risque. Et le risque, il est profondément inquiétant, très sincèrement.
En tout cas, ça montre aussi l'américanisation de cette école de Sciences Po Paris. Tiens, c'est pour ça que je vous parlais de cette demande de tenue d'un town hall. C'est un terme que personne ne connaît en France, sauf ceux qui s'intéressent au débat étudiant aux États-Unis, quoi.
Alors le terme est loin d'être neutre, vous avez raison, parce que c'est un terme qui vient des États-Unis. Un town hall meeting, pour quand je dis un grand débat, c'est parce qu'on connaît cette forme-là en France. En fait, c'est le gouverneur de Californie qui va s'asseoir et parler à ses administrés. C'est les élus au Congrès, au Parlement américain qui vont s'asseoir et discuter avec leurs administrés. Un town hall meeting, c'est ça, c'est town hall, c'est l'hôtel de ville. Donc c'est l'endroit où on débat. Souvent, il y a des caméras. Souvent, c'est retransmis. Oui, c'est un terme américain. C'est pas du tout neutre. En fait, toute cette campagne est autant domestique française qu'internationale. Et on voit bien qu'il y a une mobilisation des campus qui est pas, qui est évidemment pas autonome. Enfin, il y a des politiques.
Et une forme de mondialisation aussi de la mobilisation en faveur du sort des populations civiles de Gaza. Ça se constate.
Alors, il y a ça, c'est vrai. Si c'était ça, ce serait, pourquoi pas, ce serait le jeu de la démocratie. Sauf que, visiblement, il y a autre chose. Il y a un agenda politique derrière. Et la forme est invariablement violente. C'est toujours très spectaculaire. Et visiblement, on est là pour faire de la communication. Donc, si c'était qu'un soutien ou une organisation de soutien, il n'y a aucun problème à Sciences Po. Ou si vous baladez dans les halls de Sciences Po, vous verrez d'ailleurs des tables avec des demandes de soutien au peuple palestinien. Tout ça s'organise de manière très pacifique. Là, on est dans autre chose.
C'était quand même, alors, c'était un blocage, mais malgré tout, on peut pas dire qu'il y a eu vraiment des violences hier. Ou alors,
C'est en ça que c'est différent de l'étranger. On a une situation en France qui est plus,
Qui est plus pacifié. Voilà. Dernière question, parce que c'est important que je vous la pose. Hier, la philosophe Elisabeth Badinter, sur France 5, a accusé ses étudiants mobilisés d'antisémitisme. Est-ce que pour vous, le fait que certains étudiants de Sciences Po aient chanté ce slogan hier dans la rue Saint-Guillaume, la Palestine sera libre de la rivière, c'est-à-dire du Jourdain, jusqu'à la mer, c'est-à-dire à la Méditerranée, est-ce que pour vous, c'est un slogan antisémite ou pas? Dernière question.
Oui, c'est un slogan antisémite. Il y a aussi les mains rouges, qui est un symbole absolument terrible, les mains couvertes de sang. Oui, parce que ce sont des appels à la destruction d'Israël, ça veut dire à la destruction d'un pays, mais aussi d'un peuple. Ce sont évidemment des slogans antisémites. La question, c'est de savoir jusqu'à quel point les étudiants qui chantent ça ont conscience de ce que ça veut dire. Mais c'est très grave.
Notamment les mains rouges, vous le citez, ça fait polémique. Alors, effectivement, parce qu'il faut, qu'on s'arrête sur ce qui c'est. Voilà, il faut qu'on s'arrête sur cette main. Montrer sa main rouge, ça peut montrer une main tachée de sang, sauf que ça évoque ce qui s'est passé il y a quelques années en Israël lors de l'intifada, lorsque deux soldats israéliens avaient été lynchés par la foule et l'un des Palestiniens, c'était à Ramallah, je crois, avait brandi avec le sourire triomphant sa main tachée du sang de ces soldats qui avaient été lynchés. D'où la polémique naissante. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h41. Loin de ces débats, la santé qui est importante, on en parle avec notre invité, le docteur Roger Rua. Bonjour à vous.
Bonjour.
Médecin généraliste, évidemment, et médecin du sport aussi. La vaccination contre la méningite qui sera obligatoire pour les bébés à partir de 2025. Pourquoi? Et c'est important de le rappeler parce que la méningite tue toujours en France. C'est quoi d'abord la méningite?
La méningite est une infection grave des méninges, donc qui sont les couches protectrices du cerveau. Ils peuvent entraîner des complications assez graves et qui sont mortelles dans, malheureusement, un certain nombre de cas.
Et ça s'attrape comment?
Alors, ça s'attrape comme toutes les pathologies infectieuses aériennes, c'est-à-dire par le nez, des gouttelettes, des fameuses gouttelettes qu'on a connues lorsque la pandémie du Covid, et par contact rapproché. Donc, voilà.
Un certain nombre de cas de méningite dans le passé ont pu être observés parfois dans des établissements de santé. Comment ça peut s'expliquer?
Ah ben ça s'explique, comme on avait expliqué les fameux clusters, c'est-à-dire les foyers, c'est-à-dire que vous avez une personne qui est atteinte et autour des personnes qui sont vulnérables, c'est-à-dire soit avec des problèmes d'immunité, soit des problèmes de maladie qui ne leur permettent pas d'avoir une réaction immunitaire suffisante pour éviter le passage de la bactérie, puisqu'il s'agit de méningite bactérienne dans la plupart des cas.
Alors, si, imaginons que j'ai contracté la méningite, quels sont les premiers symptômes et qu'est-ce que je dois faire ?
Alors, les premiers symptômes de méningite sont liés au fait que ça touche donc le ménage, et donc il y a des maux de tête, ça c'est important, des maux de tête sévères. Ensuite, une photophobie, c'est-à-dire une crainte de la lumière, les gens ont peur de la lumière. Ensuite, nausées, vomissements et fièvre qui peuvent apparaître en même temps. Donc,
autant de symptômes qu'on pourrait avoir dans des cas de grosses migraines, par exemple, ou de petites affections. Or, quand on a ça... C'est urgent, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite consulter, c'est ce que vous nous dites.
Oui, alors à cela se rajoute ce qu'on appelle la raideur de la nuque, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à fléchir la tête sur le thorax. Donc quand on a tous ces signes, urgent, il faut consulter, il faut aller aux urgences.
Il faut aller aux urgences immédiatement. Et en un mot, la vaccination, qui sera donc obligatoire pour les bébés en 2025, elle est efficace à tous les coups ?
À tous les coups, elle est efficace parce que les chiffres des études sont suffisamment parlants, c'est-à-dire que ça dépasse les 85 à 95%.
Ce qui est considérable.
C'est considérable. Elle est efficace, mais il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types de méningite, plusieurs types de bactéries. Alors la principale, c'est la méningite C, contre laquelle il existe déjà un vaccin efficace. Ensuite, il y a la méningite B. Et là, nous avons affaire aussi à des méningites, alors Y, Z, quatre autres types de méningites. Et malheureusement, on ne peut pas tout avoir sur le même vaccin.
D'accord.
On est obligé d'avoir au moins 3 vaccins.
Mais autant prévenir ce qu'on peut, et c'est pour ça que ce sera obligatoire à partir de 2025. Oui. Merci pour cet éclairage, Roger Rua. Prenez soin de vous, Roger, et puis à bientôt, docteur, sur Sud Radio, en tout cas avec plaisir. Allez, à suivre sur Sud Radio. On va parler de votre santé, mais mentale cette fois-ci. Comment fonctionne l'emprise sectaire ? C'est ce que vous dira le psychologue Jean Dorido sur Sud Radio. Et avant ça, on va retrouver Michel Viennès, qui vous expliquera pourquoi le Parlement européen a pris position contre la GPA forcée. À tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Merci Sud Radio de donner la parole aux sans voix.
Oui.
Grâce à vous, on avance.
Sud Radio, parlons vrai.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Sud Radio Bordeaux 106 et en DAB+.
Sud Radio. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai.
Jardiland célèbre son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès.
Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Marie.
Vous êtes la présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Vous revenez aujourd'hui sur une directive européenne qui date du 23 avril et qui a reconnu l'exploitation de la maternité de substitution. C'est ainsi que vous appelez la gestation pour autrui. Et cette directive a reconnu la GPA comme un trafic d'êtres humains pour vous.
Oui, donc le Parlement européen a voté à une très large majorité, 163 voix pour, 7 contre et 17 abstentions, l'inscription de l'exploitation de la maternité de substitution, ce qu'en France nous appelons la gestation pour autrui, ce terme horrible concernant des femmes, une gestation, c'est des animaux. Donc je reviens à ce qu'a décidé la directive, donc, et il a décidé que l'exploitation donc de la maternité de substitution est considérée comme un trafic d'êtres humains. Et le trafic d'êtres humains, donc, c'est une violation flagrante des droits fondamentaux, une infraction pénale grave qui a une dimension transfrontalière. Donc cette directive, c'est contraignant puisque c'est une directive, et les États ont 2 ans pour mettre leur législation en conformité avec elle. Alors la traite aux fins d'exploitation sexuelle de la maternité de substitution, de la gestation pour autrui, de la GPA en abrégé, entre donc dans le cadre des formes de trafic humain, d'êtres humains, comme le travail forcé, l'esclavage ou le prélèvement d'organes.
Exactement. Alors, on précise quand même les termes. Ce n'est pas la GPA qui est considérée comme un trafic d'êtres humains, c'est l'exploitation aux fins de commettre une GPA qui est considérée comme telle. Qu'est-ce que ça signifie, cette qualification ?
Eh bien, une fois qu'il y a cette qualification, ça veut dire que les personnes qui forcent les femmes, appréciées à agir comme mères de substitution ou qu'elles incitent à le faire, sont poursuivies. Et que surtout, c'est là le point le plus important pour moi, la victime de l'exploitation, c'est-à-dire la femme qui a porté l'enfant pour autrui, est reconnue dans une situation de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réellement le choix, mais qu'elle est soumise à un abus. Et comme toutes les exploitations, je veux bien, dans le cas des trafics humains, le consentement de la personne concernée est, et je reprends l'expression, non pertinent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'elles ont consenti. Et donc, puisqu'elles subissent une forme de contrainte, qu'elle soit d'ailleurs économique, affective ou familiale, ce qui est aussi important, c'est que les entreprises qui tirent profit de cette pratique, notamment celles qui font signer des contrats, elles doivent être sanctionnées, et aussi que l'utilisation des services fournis par la victime d'une infraction liée à la traite d'êtres humains est criminalisée lorsque l'utilisateur sait que cette personne est exploitée.
Alors, les conséquences pour les États membres, en quelques mots, Michel Vianès, c'est quoi ?
Eh bien, tout simplement, je vais citer l'eurodéputée suédoise qui est la co-rapporteuse du texte. Elle dit que les États membres doivent maintenant veiller à ce que les femmes et les filles ne soient pas vendues en Europe. Et je rappelle que la GPA est interdite dans la plupart des pays européens, la France bien sûr, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, qu'elle est tolérée simplement en Slovaquie, en Irlande ou en Pologne, qu'elle est entourée d'un cadre juridique très strict au Danemark, aux Pays-Bas et en Grèce. Il n'y a que la Roumanie qui autorise une GPA rémunérée.
Merci beaucoup Michel Vianès. On vous retrouve un prochain samedi. Merci sur Sud Radio. À bientôt.
Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean de Rideau.
Bonjour Jean.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, vous revenez sur cette actualité. Ça s'est ouvert à Paris cette semaine. Le procès d'une secte présumée qui s'appelle la Grande Mutation. Alors une vingtaine de plaignants se trouvent sur le banc des parties civiles. 5 co-accusés, toujours présumés innocents pour le moment, on le rappelle. Et ils doivent répondre des faits d'abus de faiblesse par sujection psychologique. Jean, c'est pour ça que vous allez nous expliquer comment fonctionne l'emprise sectaire.
Eh bien, en fin de compte, Jean-Marie, il est nécessaire de rassembler 3 éléments pour qu'on puisse envisager la présence d'une emprise sectaire. Le premier élément, si vous voulez, c'est que la secte présumée va utiliser un discours qui est en totale rupture avec tout ce qui est déjà existant, tout ce qui fait consensus. Et à partir de ce discours, de tout ce système de croyances en totale rupture, eh bien, la secte va y associer une pratique particulière qui est précisément en rapport direct avec ce ce discours. Et donc autour de cette association, un champ de croyances et des pratiques très spéciales, et bien autour de tout ça se constitue un groupe. Et ce groupe, précisément, dès que la personne va y adhérer, et bien ça va isoler cette personne de toutes ces fréquentations qu'elle avait pu développer par le passé, à commencer par sa famille. Et c'est à ce moment-là, quand on arrive dans cette troisième étape d'un isolement social total, là on peut vraiment envisager la présence d'une emprise sectaire.
Effectivement. Alors justement, Jean, c'est quoi les éléments qui peuvent faire penser qu'il s'agirait d'une secte ?
Alors, ce qui peut faire envisager cette hypothèse, c'est que le discours de ce groupe, la Grande Mutation, qui aurait compté jusqu'à 200 membres, c'est un groupe qui se faisait appeler le Groupement de Recherche sur les Énergies Vibratoires.
Non, ça sonne bien.
Le greffe, ça sonne bien. Ou encore Support Vibratoire Incorruptible. Et donc, dans ce discours, le problème majeur qui est présenté, c'est la médecine traditionnelle. Donc là, si vous voulez, ça passe en termes de pratique par un arrêt de tous les traitements médicaux. Oui. Et puis, il y a aussi un discours sur deux catégories dans la population. Il y aurait les personnes qui sont les élus, évidemment les membres du groupe, et les autres, ce sont des prédateurs.
Comme par hasard.
Comme par hasard, comme dirait l'autre. Et donc, si vous voulez, il y a une technique qui consiste à tester au pendule tout l'entourage du membre. Et donc, si ces personnes ne sont pas des élus, si ce sont des prédateurs...
Pendule ne bouge pas, c'est ça ?
Alors ça, il faudrait rentrer dans les détails. Ouais. Ça, je n'ai pas fait de cours de radiesthésie jusqu'à maintenant. Pour autant, si vous voulez, il y a typiquement un garçon qui témoigne, qui fait partie des parties civiles, qui explique précisément que sa mère, qui a toujours été une mère aimante toute sa vie, eh bien, elle a fini par couper les ponts complètement avec lui parce qu'il était justement impur à ses yeux. Et puis cette dame a fini par mettre fin à ses jours.
C'est terrible en plus. Alors Jean, sur le plan de la psychologie, est-ce que tout le monde, un jour, peut se retrouver sous emprise sectaire ?
Écoutez, ce n'est pas encourageant. Pourtant, oui, on peut dire que tout le monde peut se retrouver sous l'emprise d'une secte.
Ça peut vous arriver à vous comme à moi.
Ça peut arriver à tout le monde, exactement. Oui, il ne faut pas se sentir plus fort parce que, évidemment, que ce n'est pas du jour au lendemain. Là, le gourou présumé, qui est décédé d'ailleurs, il y a ces cinq co-accusés qui sont sur le banc des accusés, lui est décédé. Il explique qu'il a parcouru 22 planètes, par exemple. C'est sûr que si vous dites ça du jour au lendemain à quelqu'un, la personne part en courant. Mais si vous voulez, on parle de la psychologie de l'engagement. C'est ce qu'on appelle la technique des petits pas. C'est petit à petit que ce champ de croyance finalement se referme sur la personne. Et puis souvent, évidemment, que ces groupes sectaires s'adressent à des personnes dont ils connaissent la vulnérabilité. Typiquement, une personne témoigne, c'est quand une dame a appris que son fils avait une maladie incurable, devant laquelle la médecine était impuissante, qu'elle a commencé à se tourner vers une méthode dite alternative. Et hélas, les exemples de vie peuvent arriver à tout le monde. Donc oui, tout le monde peut être un jour à risque, on pourrait dire.
Évidemment. Alors, voilà qui n'est pas rassurant. Comment est-ce qu'on peut se protéger, se vacciner, tiens, si j'ose dire, contre les risques d'emprise sectaire ?
Vaccinons-nous contre l'emprise sectaire, Jean-Marie. D'abord, cultivez votre esprit critique dans le bon sens du terme.
Toujours.
Et notamment, c'est quoi le bon sens du terme ? C'est de vous méfier des théories globales, vous savez, qui expliquent tout, qui ont réponse à tout, parce que même les savants les plus éminents sur cette terre ne parviennent pas à tout expliquer. Dieu merci, on a encore des choses à découvrir en science. Et puis surtout, développer un entourage, veiller à la bonne qualité de vos relations sociales, des personnes que vous connaissez depuis longtemps, parce que le temps, c'est important dans cette histoire. Accorder de l'importance au retour des personnes qui vous entourent depuis longtemps, qui vous aiment, parce que ce sont elles qui vous protégeront le mieux des lumières qui brillent, mais qui n'éclairent pas.
Exactement. Bon voyage parmi les 22 planètes, mon cher Jean Dorido. On vous laisse faire ce petit voyage et on vous retrouve samedi prochain. À bientôt. D'ici là, je rappelle votre livre Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. À bientôt, Jean.
À bientôt, Jean-Marie.
Et à suivre sur Sud Radio, juste après le journal de 8h, les derniers jours d'un hypermarché casino du côté de Narbonne. Des rayons à moitié vides, des marchandises bradées et des salariés qui s'apprêtent à changer de vie et en tout cas à changer d'enseigne. On va en parler avec notre invité juste après les informations. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Alors, ça se passe comment ton boulot chez But ?
Eh ben écoute, c'est juste waouh quoi. Et puis tu vois, il y a enfin génial quoi. Et puis c'est tellement
on a travaillé chez But, ça ne se raconte pas, ça se vit. Pour ses magasins et ses dépôts, des centaines de postes sont à pourvoir, de la vente et la logistique jusqu'au management. But recrute dans toute la France. Pourquoi pas vous ? Rendez-vous sur But recrute.
Enfin, tu vois quoi.
Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages.
Bah moi les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise.
Mon père aussi, et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite.
Après, il est épuisé.
Et si nous transmettions la bonne attitude ? Sur un long trajet, une pause toutes les deux heures.
Assurance Prévention, une association de France Assureurs.
Kiabi, partenaire de votre pouvoir d'achat. Quand on pense une mode à petit prix, c'est aussi pour s'évader sans bouger de chez soi. Découvrez notre nouvelle collection pyjama pour toute la famille. Imprimé frais, matière légère, comme l'incontournable pyjama short femme, matière mélangée coton et lin, à 12 euros. C'est comme ça que Kiabi en fait toujours plus pour les familles. Kiabi, la mode à petit prix. Jusqu'au 7 mai. Conditionskiabi.com.
Garaison, imaginez un cadre accueillant et unique dédié à l'apprentissage et à la transmission. Un lieu où écoliers, collégiens et lycéens grandissent et étudient dans le meilleur des environnements. Bienvenue à Notre-Dame de Garaison, l'institut qui fait le lien entre tradition et futur. Ici, la vie en communauté rime avec exigence et valeur. Info sur garaison.com.
Limousine,
à l'aubergine,
à la bénédictine,
à la poitevine,
à la girondine,
en mousseline,
chez Micheline,
aux mandarines,
façon Justine,
en gélatine,
à la cantine,
en tartine,
en tagine,
en verrine,
so bling bling,
en smoking,
en jogging,
chez la voisine,
de la grande cuisine,
chez nous le bœuf, qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui.
L'horoscope Sud Radio.
Et bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous, nous sommes le samedi 27 avril.
Bélier, ouvrez bien les yeux et les oreilles. Une aide non négligeable pourrait tomber du ciel. Testez la chance avec le hasard.
Taureau, voici le moment de vous détendre. Permettez à votre organisme de se régénérer dans la décontraction la plus totale.
Gémeaux, un vent de liberté souffle et vous encourage à vous exprimer, à prendre des décisions, à vivre plus intensément.
Cancer, vous n'avez pas envie de faire d'efforts trop intenses durant votre week-end. Ne refusez pas les sorties entre amis.
Lion, la lune est un peu brusque. Si quelqu'un n'est pas tout à fait en harmonie avec vous, évitez de le lui dire dès les